je parlerai de l'impact de l'ALENA sur les mouvements autochtones au Mexique, je défendrai la thèse que l'ALENA a eu deux impacts très importants sur les autochtones et sur le mouvement autochtone mexicain. Le premier impact de l'ALENA s'est matérialisé le jour même de l'entrée en vigueur de l'ALENA, le 1er janvier 1994, par le mouvement zapatiste. Mais au-delà de l'aspect même théâtral du mouvement zapatiste, il y avait des choses plus profondes qu'on va essayer d'analyser. Il va falloir pour ça remonter un peu en arrière. Le deuxième impact est postérieur au mouvement zapatiste, et il commence dans les années 2000, et il est lié donc à cette entrée massive des compagnies minières sur le territoire mexicain auquel Dago a fait référence. Bon, les Autochtones représentent actuellement une douzaine de, environ 10% de la population au Mexique, 12 millions sur 115 millions de Mexicains. La politique des gouvernements mexicains après la révolution de 1910-1917 a été l'assimilation des Autochtones dans la grande famille métisse, la raza cosmica dont parlait Vasconcelos. Deux moyens principaux. Le premier, l'éducation. Il faut hispaniser, castellanizar, il faut alphabétiser, scolariser. Le second moyen, non officiel, mais beaucoup plus puissant, c'était d'invisibiliser les Autochtones. D'une manière très simple, en les faisant disparaître des statistiques. Les adultes qui parlaient trop bien l'espagnol n'étaient plus autochtones. Les enfants de moins de 6 ans qui ne parlaient pas encore les langues autochtones n'étaient pas autochtones non plus. Donc, comme ça, on blanchissait le pays statistiquement. En même temps, il y avait des mesures légales très puissantes. Par exemple, le gouvernement mexicain a redistribué les terres, comme mentionnait Thiago, surtout après 1940, après 1936, pardon. Mais on distribuait la terre aux paysans. Les Indiens n'existaient pas. Alors, les Indiens, ils ont mis leur chapeau de paysans et ils ont réclamé les terres. Et ils en ont tenu comme paysans. Et ils ont appelé leur nouvelle communauté Emiliano Zapata, etc. Ils sont devenus très, très mexicains en apparence. La plupart d'entre eux, cependant, en même temps qu'ils jouaient ce rôle face à l'extérieur, et ils jouaient très bien, conservaient, beaucoup conservaient leur langue, des larges pentes de leur organisation sociale, de leurs croyances, leur rapport à l'environnement. Maintenant, Dago a évoqué donc, ces miracles mexicains, ces 40 années de croissance assez soutenue, 1940 à 1970, quand le Mexique se nourrissait lui-même grâce à l'agriculture et avait opérer cette industrialisation partielle par substitution des importations. 1970, une période clé pour le Mexique. On ne produit plus cette nourriture, ça apparaît désormais très clair. La population s'est accrue, la production agricole s'est réorientée. L'industrie est dans une mauvaise passe. Ils font importer de la nourriture et le pays commence à connaître le problème de l'inflation qui n'est pas connu et des problèmes d'agitation sociale. Bon, dans les campagnes, ça s'agit de nouveau, il y a des grands domaines qui n'ont pas été redistribués. Il y a un mouvement agraire radical qui reparaît, qui était sous le manteau depuis longtemps, et des nombres de paysans qui réclament des terres. Alors, bien sûr, ils les réclament officiellement, mais quand ça ne fonctionne pas officiellement, on les occupe les terres et on dit maintenant, arrangez-vous avec les papiers. Et c'est au sein, alors le gouvernement va s'interroger sur ce mouvement-là, et on va se rendre compte que ce mouvement agraire radical est surtout présent dans les régions autochtones du centre et du sud-sud-est du pays. Donc des paysans, mais des paysans amérindiens. Et c'est là que surgit l'idée de l'indio peligroso, l'indien dangereux. Donc les autochtones qui sont encore autochtones, ils ont de mauvaises intentions. Et à ce moment-là, on se rend compte que ce milieu paysan, ce milieu autochtone d'ailleurs, est travaillé par des forces, depuis quelques années, par des forces nouvelles, des forces assez importantes. D'abord, il y a la théologie de la libération qui a pris racine en Amérique latine suite au Concile Vatican II. Bon, l'Église a un préjugé pour les pauvres, mais on peut avoir les pauvres parmi les pauvres et c'est beaucoup d'entre eux sont des Indiens. Donc vous avez des curés, des religieuses, des jeunes laïcs qui vont travailler dans les régions autochtones et ils travaillent à l'organisation. Vous avez d'autre part de jeunes gauchistes, des survivants de octobre 1968, qui disent en ville, il n'y a pas moyen de rien faire, on va aller à la campagne, on va travailler à organiser les paysans. D'étranges strange bedmates, comme disent les Anglais, d'étranges compagnons de lit, mais qui souvent vont fonctionner sur place. Je les ai vus dans la Sierra de Puebla et dans le Chiapas aussi. Donc, il va y avoir une division du travail. L'Église donne une légitimité au mouvement d'organisation autochtone. Et les jeunes gauchistes, dans la mesure où ils ont appris à leur dépens que la lutte de guérilla n'était pas la meilleure chose, vont travailler à organiser les gens légalement, organiser des coopératives, on parlait de coopératives, des comités agraires, etc. Donc, il va y avoir un travail d'organisation dans le milieu rural qui va se faire. Le gouvernement, dans un premier temps, va souvent marcher, surtout le gouvernement fédéral. parce qu'ils voient une manière de moderniser finalement les campagnes. On va donner des crédits pour les coopératives, on va donner des vivres à un prix subventionné. Jusqu'en 82. Alors, 82, c'est la crise financière internationale, c'est la crise financière au Mexique. Et là, les bailleurs de fonds deviennent extrêmement stricts. Alors, c'est ce qu'on a appelé les programmes d'ajustement structurel qui deviendront ensuite le fonctionnement normal, néolibéral de l'État. Réduire les budgets, réduire les subventions. L'agriculture devient divisée en deux grands secteurs. Une agriculture rentable dans quelques régions qui produit des céréales de façon mécanisée ou alors qui produit pour l'exportation des concombres, des fleurs, des tomates pour le marché nord-américain. Et il y a d'autre part l'agriculture sociale. Une agriculture qu'on va maintenir en place avec des programmes ponctuels, réparer les chemins, un petit programme pour moderniser le café. Mais ça, c'est l'agriculture autochtone et paysanne. Donc, elle est là, on ne veut pas la ruiner d'un coup parce que ça ferait des millions de gens qui arriveraient en ville. Ça, on n'a pas d'endroit à les recevoir, mais on s'efforce de les faire vivoter à la campagne. Maintenant, le retrait de l'action de l'État des campagnes va avoir des conséquences assez dramatiques, assez importantes, entre autres dans le Chiapas. Dans le Chiapas, où un mouvement s'était formé grâce à l'action de l'Église, Monsieur Ruiz et des armées de bénévoles, de prêtres, de laïcs qui travaillaient avec lui, qui avaient formé des catéchistes, toujours dans cette perspective que une certaine aisance est quelque chose de favorable pour l'Église. Il n'y a rien de saint dans la pauvreté. Et d'autre part, de jeunes militants gauchistes qui étaient venus du Nord organiser les paysans. On avait mis en place des comités locaux, des uniones de ejidos, et finalement on allait vers une très vaste union de crédito pour moderniser toute la région. Et le gouvernement, après avoir dit oui, dit non, il n'y a pas d'argent, il n'y a plus d'argent, il n'y aura pas d'argent, organisez autrement. C'était un choc énorme, il y a eu des débats intenses, et finalement l'organisation s'est divisée. 40% des 10 000 membres sont allés du côté du gouvernement dans les ARIC, organisation pro-étatique qui a mis en place. D'autres sont allés avec les gauchistes qui ont dit, voyez-vous, on a essayé pacifiquement, on ne peut pas fonctionner comme ça. Et vont donc commencer le mouvement qui va être l'armée sympathiste de libération nationale. Bon, on connaît un peu la suite. L'armée sympathiste va faire un gros coup d'éclat le jour même donc, où l'ALENA entre en vigueur, le 1er janvier 1994. Donc, c'est la prise de San Cristóbal de las Casas et de quatre autres villes. Et voilà tout à coup que les journalistes qui étaient allés pour faire des entrevues ennuyeuses avec des politiciens sur l'entrée en vigueur de l'ALENA, tout à coup, prennent l'avion, ils s'en vont au Chiapas et interviewent des révolutionnaires qui ne demandent pas mieux que se faire interviewer et qui essayent de laisser passer sur les pages arrachées à un cahier d'école. Donc, tout avec un atmosphère très postmoderne qui a séduit beaucoup l'opinion internationale. Bon, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Les sympathistes disent, nous voulons négocier avec le gouvernement. Dans un premier temps, c'est le soulèvement armé. Le soulèvement armé est un échec. Alors, on change 180 degrés d'orientation. Nous sommes prêts à négocier avec l'État et on demande à la société civile mexicaine d'obliger le gouvernement à négocier. Le gouvernement mexicain va négocier. On va avoir des tables de négociation qui vont être mises en place. Et finalement, au terme d'un long processus dont j'épargne les détails, on en vient à une proposition de loi autochtone qui va d'abord être signé par les représentants du gouvernement, mais que le gouvernement mexicain refusera toujours de ratifier. Bon, le gouvernement change, le prix tombe en 2000, c'est le PAN qui vient au pouvoir, et le gouvernement de Jonathan Fox dit, ben, écoute, nous sommes prêts à discuter, venez à Mexico présenter votre projet de loi finalement, qui est le projet qui avait été, sur lequel il y avait eu accord. Les sympathistes viennent présenter leur projet au champ, ils en profitent pour faire une vaste tournée dans les régions, ils constatent qu'il y a un grand appui des régions autochtones, il y a eu tout un mouvement au Mexique, l'Assemblée nationale autochtone pour l'autonomie qui s'est formée, et là il y a une revendication qui est surgie désormais parmi les autochtones mexicains. On ne veut pas seulement la terre, des petits lopins de terre pour cultiver, on ne veut pas seulement des droits culturels comme ça en l'air, comme le gouvernement avait reconnu en 92. Ce qu'on veut, c'est l'autonomie, la possibilité de gérer nous-mêmes nos affaires. La loi qui va être adoptée par le gouvernement fédéral connaît beaucoup de choses, sauf l'autonomie bien sûr, parce que sauf le territoire, c'est les deux points clés qu'on refusera de connaître. Et bon, les sympathistes vont se retirer dans les montagnes du sud-est, et le mouvement autochtone va se trouver dans différentes régions avec une expérience de lutte, une expérience d'organisation. Merci. À mon âge, j'ai failli avoir une crise. Alors, donc, entre-temps, donc on a un mouvement qui est très différent de ce qu'il était en 2000. On a un mouvement qui est très différent de ce qu'il était 20 ans auparavant. On a des paysages autochtones qui est absolument chambardé. On a dans les villages maintenant des comités pour tout. On a des organisations, des associations. Et on a eu l'habitude de discuter, de se rencontrer, de négocier. On sait que parfois on gagne et parfois on perd. Alors, mais en 2000, on peut dire que le mouvement amorcé dans les années 60, théologie de la libération, apport des jeunes gauchistes dans une société autochtone qui était inquiète, ben, ce mouvement-là avait un peu donné son résultat. Mais au début des années 2000, on ne voyait pas du tout s'il allait en sortir quelque chose. Tout à coup, une autre conséquence de l'ADNA apparaît. En 1992, le gouvernement mexicain, dans ses mesures préalables pour favoriser la signature du traité, avait complètement réformé sa loi minière. Loi minière nationaliste qui datait du temps de Cárdenas, où on disait que le sous-sol appartient à la nation. Eh bien non, on prend un modèle canadien qui dit que, ma foi, la terre, le premier usage, l'usage minier du sol est prioritaire sur tous les autres usages, qu'on n'a qu'à faire, qu'on n'a qu'à réclamer la possibilité d'explorer un secteur et que vous avez l'exclusivité de ça. Et s'il y a des gens dessus, ben, on les indemnisera et on les déplacera, comme ça se fait chez nous, depuis toujours. Alors voilà, les compagnies minières, au début des années 90, il y a eu très peu de demandes de claims parce que les prix des métaux étaient assez déprimés. Dans les années 2000, on sait ce qui arrive, le quatrième mousquetaire entre en scène, donc la Chine se met à payer n'importe quel prix un prix de plus en plus élevé pour les métaux, les minéraux, et donc tout à coup c'est la ruée au Mexique. Ça va donner des chiffres là. Entre 2000 et 2006, le gouvernement de Vicente Fox a octroyé 17 000 claims couvrant une surface de 30 millions d'hectares. Son successeur, Calderón, lui a fait 8 000 claims pour un total de 22 millions d'hectares. Donc c'est des surfaces énormes qui sont distribuées dans le pays, qui sont données comme ça. Et un bon nombre de ces exploitations sont dans les régions montagneuses. Les régions montagneuses, c'est là où les Autochtones se sont réfugiés, où l'on les a poussés au cours de la colonisation et ensuite. Alors, bon, les nouvelles techniques d'exploitation, vous les connaissez, les mines à ciel ouvert, c'est plus du tout les mines de galerie comme autrefois. Bon, pour sortir un mètre cube de terre, pour en arriver à un mètre cube d'or, puisqu'on cherche beaucoup de l'or monte en flèche, alors il faut déplacer des millions de tonnes de terre et de roches. Il faut pulvériser la roche dans d'énormes broyeurs et ça laisse des montagnes de scories, ça laisse des cours d'eau contaminés. Il faut beaucoup d'eau pour faire la centrifugation, la lixiviation, et ça vous laisse des lagunes et des rivières contaminées au mercure et surtout au cyanure de sodium, qui est le principal agent chimique qu'on emploie. Et voilà. Mais autrefois, les compagnies minières seraient allées dans une région, elles auraient peut-être rencontré une résistance locale, puis ça serait arrêté, elles seraient allées dans une autre, etc. Maintenant, le mouvement autochtone, les milieux autochtones est changé. Un mouvement autochtone qui, sans être intégré au plan national, a beaucoup de communications. Les communications qui viennent par les groupes politiques qui sont allées par les organisations autochtones eux-mêmes, par l'Église. Et les autochtones du Morelos, de Oaxaca, Puebla, ils entendent parler de ce qui s'est passé à San Luis Potosí, où la minera San Javier a fait un désastre environnemental et continue de le faire. Et surtout, ils se rendent compte que si on laisse la compagnie minière s'installer, il est trop tard. Elle aura déjà acheté les autorités politiques locales, régionales. Elle aura pris un certain nombre de gens à qui elle va promettre des emplois de mineurs. Et donc, la communauté sera divisée. Donc, ce qui se développe de plus en plus, c'est une stratégie assez similaire dans les différentes régions autochtones, qui consiste à dire, eh bien, on les laisse pas entrer. Alors, je travaille comme anthropologue depuis 40 ans maintenant dans la Sierra Norte de Puebla, et j'ai vu cette petite région extrêmement tranquille, les producteurs de maïs et de café, être tout à coup secouée par cette entrée des compagnies minières. Alors, en haute montagne, à 2000 mètres d'altitude, c'est là que se trouve le minerai. J'ai le rapport d'une des entreprises qui dit, écoutez, on a trouvé 2 grammes d'or par tonne, on fonce. Donc, 2 grammes d'or par tonne de roche, ça vaut la peine de faire sauter, pulvériser, centrifuger et sortir ça. Et bien sûr, pour ça, il faut de l'eau, il faut... Alors, donc, progressivement, on voit les gens de haute montagne commencer à s'organiser. Et tout à coup, plusieurs municipes se mettent ensemble, on n'avait pas de compagnie minière. Et là, on voit des différences. Dans une région extrêmement pauvre, extrêmement désertique, où la compagnie arrive, eh bien, les gens disent, bon, écoutez, si vous nous donnez des emplois, vous allez faire un terrain de jeu, rénover l'école, bon, d'accord. Alors, les gens discutent pour une meilleure rente pétrolière. Donc les gens, ce qu'ils veulent, c'est d'avoir davantage de l'exploitation, minière. Dans d'autres communautés, par contre, où la terre est plus fertile, les gens travaillent, ils disent « on ne veut pas de ça, on veut continuer de cultiver, on sait que là où vous arrivez, il n'y a plus d'agriculture, c'est possible, on va tous devoir partir. » Ou alors, parce qu'entre nos villages ici, la terre va être complètement détruite. Donc, alors c'est toute une région où vous avez maintenant des dizaines de milliers de personnes qui ont formé un vaste réseau qui a une base commune qui dit « on ne veut pas d'entreprise minière chez nous ». Ni pour exploiter le minerai, ni pour faire les nids de la zone des barrages, parce que les compagnies minières ont besoin d'énergie pour pouvoir faire leurs opérations. Alors je pense que... Okay, voilà, donc, en conclusion, impact sur le mouvement, deux impacts de l'ALENA sur les milieux autochtones mexicains. Eh bien, je pense qu'on voit la rapidité et l'efficacité de la réaction des communautés autochtones de plusieurs régions du Mexique à l'implantation des compagnies minières, dont tout le chemin parcouru depuis les années 70. Et là, le mouvement zapatiste, le premier résultat de l'ALENA, qui lui-même ne peut se comprendre que si on tient compte de tout ce qui s'était passé avant, la réforme agraire mexicaine, l'intervention de la théologie de la libération et de militants gauchistes dans les campagnes, bien, le mouvement zapatiste a provoqué un éveil national, pas seulement chez les autochtones d'ailleurs. Et d'autre part, lorsque la poussière semblait retomber sur ce mouvement-là, quand arrive le nouveau défi, celui des compagnies minières, eh bien les gens s'organisent. Les gens savent que on ne peut pas tellement compter sur les instances gouvernementales, pour diverses raisons, mais que par contre, on va mener la lutte sur deux fronts. Alors on mène la lutte sur le plan légal d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on a? Quels sont les types de propriétés dont on dispose? Qu'est-ce que la loi exige? Est-ce qu'ils ont bien leur permis de Semarnat? Vous avez un groupe une compagnie chinoise qui avait acheté d'une compagnie canadienne possibilité d'exploitation. Ils n'avaient pas vérifié les dossiers. Les Autochtones savaient qu'ils n'avaient pas le permis d'installation, même s'ils avaient le permis d'exploitation. Alors ils sont allés, on dit, vous n'avez pas votre permis. Ils disent, on a le permis, ce n'est pas le bon permis, il faut le permis d'installation, vous êtes installé sans permis. Et les Autochtones sont venus à 5000, ils ont arraché les clôtures, ils ont démoli les cabanes et les travailleurs sont partis. Donc ils disent, vous n'avez pas vos permis. Mais alors on combine l'action légale avec l'action directe. Bon, le gouvernement aussi a décidé, lui, qu'il réagissait par rapport à ça. À un moment donné, ils ont capturé pendant 24 heures un groupe d'Autochtones qui étaient allés protester, donc qui bloquaient l'entrée des tracteurs pour faire une exploitation. Donc on assiste présentement dans ces régions à un certain durcissement des positions. Qu'est-ce qui va arriver? Présentement, c'est plutôt revenu au calme sur le front. Je pense que des deux côtés, on fait des stratégies, mais également le prix des métaux a baissé. Donc, ce sont des luttes qui sont dépendantes de conjoncture. L'or est rendu à 1 200 $, il était monté jusqu'à 1 800 $ l'once. Alors, les compagnies canadiennes, là, ils ont toujours les concessions, mais pour l'instant, on ne voit pas de tracteur à l'horizon, ni de bulldozer, ni d'explosifs. Comme disait un autochtone, peut-être, en pesant bien ces mots, peut-être que pour l'instant, ça va être jusque-là. Mais les machettes sont encore aiguisées. Merci.
Merci.